votre avis de La Voix de l'Amérique. À très bientôt.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manirakidza avec vous dans cette édition du mardi 28 avril 2022. Au sommaire, en Guinée, deux ex-dirigeants proches du président déchu Alpha Condé sont inculpés et écroués pour corruption. Les casques bleus tigréens refusant de rentrer en Éthiopie sont victimes de propagande, affirme le ministère éthiopien de la Défense. En Somalie, élection du président de la chambre basse du Parlement. Deux jours après, celle du leader de la chambre haute. Le président Biden va demander 33 milliards de dollars au Congrès pour l'Ukraine et propose de transférer à l'Ukraine des avoirs russes saisis. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage jeudi à la CEDEAO pour sa stratégie décisive contre les coups d'État après le déploiement en Guinée-Bissau d'une force de stabilisation. La détermination et la capacité à décider de la part de la gouvernance de la CEDEAO sont des éléments qui représentent de très bons exemples pour le reste du continent, a-t-il dit. Trois pays de la région récemment secoués par des coups d'État, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, ont été suspendus des instances de la CEDEAO. En Guinée, la justice annonce l'inculpation et la mise en détention de deux ex-dirigeants supplémentaires alors que les poursuites judiciaires pour corruption se multiplient contre les proches du président déchu Alpha Condé depuis le coup d'état militaire de septembre à Conakry. Jacques Aristide.
Les deux inculpés sont Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, et Luceni Camara, qui était à la tête de la commission électorale. Ce dernier était également ministre de l'hôtellerie et du tourisme. Ils sont accusés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de corruption. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Tous deux sont des membres importants du Rassemblement du peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé, qui a été chef de l'État depuis 2010 jusqu'à sa chute l'année dernière. L'incarcération et la mise en examen de Luceni Camara et de Madou Damaro porte à au moins 9 le nombre de responsables de l'ancien pouvoir, dont 8 anciens ministres, parmi lesquels un ancien premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, inculpé et écroué dans le cadre des accusations de fraude ou de corruption en Guinée, pays actuellement dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en septembre dernier. Il a proclamé la lutte contre la corruption comme une de ses priorités.
La France a appelé jeudi la junte au pouvoir au Mali à reconsidérer sa décision après la suspension définitive de l'autorisation de diffusion dans ce pays des médias français RFI et France 24, faisant part de sa vive préoccupation. Il s'agit d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans un contexte de tentatives répétées de manipulation de l'information au Mali, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Par ailleurs, l'armée française a rejeté les accusations de violation de l'espace aérien et d'espionnage formulées à son encontre par Bamako après la diffusion d'images de drones visant à démontrer, selon elle, une mise en scène de crimes de guerre afin de salir son image. La présidence kenyane a appelé jeudi les différents groupes armés en RDC Congo à déposer les armes et à travailler avec le président Félix Tshisekedi pour encourager la paix et la stabilité. Un premier tour de consultation de paix s'est achevé mercredi à Nairobi entre les autorités de la RDC et des groupes armés opérant dans ce pays. Près de 30 délégués représentant les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris part à ces échanges avec des émissaires du président Félix Tshisekedi. D'autres rencontres auront lieu dans les semaines à venir. Les casques bleus, originaires du Tigré, qui ont refusé de rentrer en Éthiopie après leur mission, sont victimes de la propagande et des mensonges et des rebelles tigréens, affirme le ministère éthiopien de la Défense, Nani Tetalani.
Plus de 500 casques bleus originaires du Tigré ont refusé à l'issue de leur mission de quitter Abyé, zone contestée entre le Soudan du Sud et le Soudan, et ont demandé l'asile politique à Khartoum. Ils disent craindre pour leur sécurité. Dans un communiqué, le ministère éthiopien de la Défense accuse les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré d'avoir déversé leur propagande pour inciter les militaires tigréens à ne pas retourner dans leur pays en répandant le mensonge qu'ils seraient emprisonnés s'ils rentraient. Le ministre éthiopien rappelle qu'avant ceux d'Abyé, quelques casques bleus tigréens basés au Darfour avaient déjà refusé de rentrer. Depuis le début du conflit au Tigré, un nombre indéterminé d'officiers tigréens ont été arrêtés, accusés de collusion avec le TPLF, et il a été fait état d'arrestation arbitraire de civils tigréens à Addis Abeba ou de la fermeture de commerces et d'entreprises leur appartenant.
Les députés somaliens ont élu aujourd'hui le président de la Chambre basse du Parlement, deux jours après celle du leader de la Chambre haute. Ces deux désignations ouvrent la voie à l'élection du président de la Somalie, retardée de plus d'un an. N'est-ce pas, Jean-Roger Bion?
Cheikh Adam Mohamed Nou, plus connu sous le nom de Cheikh Adam Badobé, 66 ans, a été élu président de la Chambre basse par 163 voix sur 252 après deux tours de scrutin. Mardi, un autre vétéran de la politique somalienne, Abdi Hachi Abdoulaye, 76 ans, a été élu président de la Chambre haute. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, plus connu par son surnom de Farmajo, a félicité Badobé, affirmant dans un communiqué espérer que son élection deviennent le point de départ d'un grand changement qui sauve le pays. Sur Twitter, le premier ministre Mohamed Hussein Roblé a appelé les deux élus à assumer leurs responsabilités et à conduire l'élection présidentielle de manière transparente, rapide et pacifique. Il revient désormais au Parlement somalien de désigner une date pour choisir le président. Selon le complexe système électoral somalien, les assemblées des États ainsi que des délégués investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les parlementaires démocrates ont annoncé jeudi une initiative législative cherchant à punir les compagnies pétrolières qu'ils accusent de manipuler les marchés et d'augmenter injustement les prix à la pompe. La réforme permettrait aux régulateurs d'imposer de lourdes amendes aux compagnies pétrolières et gazières de profitant de la guerre en Ukraine et d'un pic des prix du brut lié à la pandémie pour augmenter leurs profits aux dépens des automobilistes américains. Le président américain Joe Biden a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et propose de liquider les avoirs de l'oligarque russe pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Il demande aussi 33 milliards supplémentaires de dollars pour livrer plus d'aide militaire à Kiev. Abdulhaman Diya.
Dans un discours depuis la Maison Blanche, Joe Biden propose de liquider tout ou partie des avoirs saisis auprès d'oligarques russes et d'en transférer le produit à Kiev pour compenser le préjudice causé par l'agression russe. Pour ce faire, il aura besoin de l'accord du Congrès auquel il demande une vaste rallonge budgétaire pour être en mesure de poursuivre les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine. Les États-Unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée le 24 février. Le président Biden admet que le soutien à l'Ukraine est coûteux, mais que les États-Unis ne peuvent pas, selon ses propres termes, rester à l'écart. Le locataire de la Maison-Blanche a aussi laissé entendre que les États-Unis ne laisseront pas Moscou intimider les pays européens après l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie. De son côté, Moscou a dénoncé ce jeudi les livraisons d'armes à l'Ukraine qui, selon elle, menacent la sécurité européenne. Sur un autre registre, la justice ukrainienne annonce l'inculpation de 10 soldats russes pour des crimes de guerre présumés commis à Boutcha. Ils vont être recherchés selon la procureure générale d'Ukraine.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine. L'Ukraine a le droit de frapper des cibles militaires russes, a affirmé jeudi un conseiller de la présidence ukrainienne, laissant entendre que Kiev pourrait procéder à des frappes sur le territoire russe. L'ex-président français François Hollande a mis en garde jeudi contre le risque d'une disparition du Parti socialiste en France en cas d'accord avec la gauche radicale qui prévoirait son effacement aux élections législatives de juin. Une vague de chaleur au cours s'est abattue sur l'Inde et le Pakistan, provoquant des coupures d'électricité et des pénuries d'eau pour des millions d'habitants qui devraient subir cette fournaise. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Au lendemain de l'adoption par la Centrafrique du Bitcoin, le FMI a appelé à ne pas voir la monnaie virtuelle comme une panacée contre les défis économiques. Les crypto-monnaies peuvent contribuer à un système de paiement plus robuste sur le continent, a déclaré le directeur du département Afrique, Emro Selassie, ajoutant toutefois qu'il faut s'assurer que le cadre législatif, la transparence financière et la gouvernance sont bien en place. Au Bénin, le Trésor public a levé 41 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA à l'issue d'une émission simultanée d'obligations de relance à maturité de 5 ans. Les obligations de relance sont dédiées à l'apport de ressources sous forme de fonds propres aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de financer des projets en accélérant la gouvernance d'entreprises socio-environnementales et la digitalisation. Le plus gros diamant bleu vif jamais mis aux enchères, le De Beers Cullinan Blue, en provenance d'Afrique du Sud, a été vendu à 57,4 millions de dollars à Hong Kong hier. Il égale pratiquement le record de prix pour un diamant bleu détenu par The Oppenheimer Blue, vendu à 57,54 millions de dollars en 2016.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nanit Sylvanie Talani avec nous ce soir. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Commençons par le football européen. En Angleterre, Manchester United reçoit Chelsea ce jeudi soir en match avancé de la 37e journée de Premier League. Le club hollandais de Feyenoord accueille ce soir aussi à Rotterdam l'Olympique de Marseille en demi-finale aller de la Ligue Europa Conference. Liverpool se rendra finalement le mardi du 7 mai sur la côte sud pour son avant-dernier match de championnat de la saison pour affronter Southampton, 3 jours après leur rendez-vous à Wembley avec Chelsea pour la finale de la Football Association Challenge Cup, plus connue sous le nom de FA Cup. La rencontre Liverpool-Southampton avait été reportée en raison de cette finale. Liverpool sera donc contraint de disputer 2 matchs de Premier League au cours de la dernière semaine de la campagne. En rugby, l'Espagne a été exclue du Mondial 2023 organisé en France pour avoir aligné à 2 reprises pendant les qualifications un joueur non éligible, a annoncé ce jeudi la Fédération internationale. Le pilier sud-africain Gavin van der Berg avait été aligné à 2 reprises face aux Pays-Bas lors du tournoi B qualificatif pour le Mondial 2023. Mais il n'aurait pas accumulé les 3 ans de présence en Espagne sans interruption de plus de 60 jours nécessaires pour être éligible selon le règlement de la Fédération internationale de rugby. Cette décision, susceptible d'appel pendant une période de 2 semaines, ouvre la voie à la participation au Mondial de l'année prochaine de la Roumanie qui avait déposé un recours devant la Fédération internationale. Le Portugal pourra quant à lui prendre part au tournoi qualificatif final organisé en novembre 2022 à la place de la Roumanie. Pour terminer, en basketball ici aux États-Unis, Milwaukee, champion en titre, et Golden State, de retour en phase finale après 2 saisons ratées, se sont qualifiés hier pour le prochain tour des playoffs NBA en remportant leur série de premier tour par 4-1. Les Milwaukee Bucks ont dominé Chicago 116-100 à domicile grâce à 33 points de leur géant grec nés de parents nigérians, Giannis Antetokounmpo, pour gagner le droit d'affronter en demi-finale de conférence les Boston Celtics qui ont balayé les Brooklyn Nets 4 victoires à 3. Les Golden State ont de leur côté battu Denver 102-98 sur leur parquet grâce à 30 points de leur leader Stephen Curry, remportant ainsi leur première série de playoffs depuis 2019 quand ils avaient perdu en finale contre Toronto.
C'était les sports de Nanit Sylvani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza, dans Le Monde aujourd'hui, place au dossier du jour. Alors que la Haute Autorité de la Communication du Mali a confirmé mercredi la suspension définitive de deux médias publics français, RFI et France 24, pour avoir révélé des exactions présumées commises par l'armée malienne et des mercenaires russes, Reporters sans frontières annonce la remise en ligne de leurs sites respectifs. L'organisation les a débloqués en créant une copie miroir permettant d'échapper à la censure. Pour en savoir plus, Nanit Talani a joint à Paris, en France, Arnaud Froger, le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Ce qui se passe au Mali dépasse un peu je dirais, le sort qui a été réservé à France 24 et au Mali. Il y a deux choses qui se passent. Il y a d'abord un accroissement sur le plan politique et diplomatique très fort des tensions entre la France et le Mali. Ça, c'est un premier point de contexte. Et la deuxième chose importante, il y a un rétrécissement très important également de l'espace accordé aux médias et aux journalistes pour effectuer leur travail au Mali. La junte avait décidé en mars de suspendre France 24 et RFI suite à des révélations concernant les exactions présumées par les forces armées maliennes sur des populations civiles. Et cette décision a été confirmée par la Haute Autorité de la Communication très récemment, il y a 3 jours maintenant. Et donc RSF, en soutien aux journalistes, mais également au droit à l'accès à l'information des populations maliennes, a décidé de débloquer, quitte censuré, de France 24 et de RFI.
Mais dans quel cadre faites-vous ces opérations et comment se font-elles ?
C'est un cadre qui consiste à, si vous voulez, via notre opération Collateral Freedom, à mobiliser nos experts en informatique pour débloquer des sites qui ont été censurés lorsque les voies de recours ont été épuisées ou lorsque la décision politique tombe comme un coup près et qu'il n'y a pas de possibilité de négocier. Donc c'est une réponse à l'arbitraire de la décision que de rendre accessible ces sites qui permettent encore une fois aux Maliens de s'informer, mais il existe évidemment d'autres sources d'informations. Ces médias-là ont une place particulièrement importante dans le paysage médiatique local et de la même manière que nous avons débloqué par exemple le site Bouyachou qui est un site de référence au Burundi ou que nous avons débloqué des sites qui avaient été censurés en Russie, nous avons dans cette opération Collateral Freedom décidé de mobiliser nos équipes et nos experts pour débloquer RFI et France 24.
Quel est le message que vous voulez donner en débloquant ces sites?
Le message, il est très clair. Reporters sans frontières défend le journalisme et défend l'accès à une information de qualité. Quand on estime que des journalistes sont menacés ou lorsque des sites ou des médias sont arbitrairement censurés pour des raisons politiques ou pour protéger des intérêts qui sont des intérêts privés, notre mission, c'est de défendre le journalisme et c'est de défendre l'accès à une information de qualité. Il n'y a pas beaucoup de trajectoires, je dirais, paisibles qui amènent à une forme de développement lorsque des États se décident à suspendre des médias internationaux. Lorsque le recours à ce type de pratique est observé, en général, malheureusement, ça se traduit par des restrictions non seulement de la liberté d'informer, mais de l'ensemble des libertés.
Arnaud Froger est responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire, le président togolais Faure Gnassingbé a annoncé dans un message à la nation des mesures pour contraindre la vie chère au Togo. Il s'agit notamment des suspensions de remboursement des avances sur salaire, de l'arrêt de la perception des tickets de marché et de l'exonération de la TVA sur des produits de consommation. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Dans l'adresse à la nation, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, a indiqué que le monde traverse une conjoncture marquée par une superposition de crises jamais égalées. Il a réaffirmé son engagement pour faire du Togo un pays résilient et poursuivre les progrès réalisés.
Le contexte sanitaire et sécuritaire qui perdure dans tous les pays du monde affecte notre pouvoir d'achat et notre bien-être. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté.
Dans cette optique, le gouvernement annonce des mesures à l'endroit de certaines catégories de citoyens. Akoda Ayewadan, le porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement suspend à compter du mois de mai 2022 et ce jusqu'à la fin de l'année les remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordés au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Pour compter du 1er mai 2022, et pour une durée de 3 mois, le paiement des taxes de tickets de marché est suspendu dans tous les marchés sur toute l'étendue du territoire national. Concernant les produits locaux, le prix du maïs, sorgho, haricots, petit mil et riz sont plafonnés. Les prix de l'huile végétale, du lait, de la farine de blé et des concentrés de tomates sont plafonnés. Ces produits seront exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, à l'importation.
À l'annonce de ces mesures, les associations de consommateurs disent prendre acte, mais s'inquiètent. Une chose est de plafonner les prix et d'exonérer les produits. Une autre chose est d'assurer le contrôle effectif de ces mesures. Le gouvernement rassure. Akoda Ayewadan.
Le gouvernement invite tous les acteurs au respect de ces prix plafonds. Des contrôles stricts seront effectués par des équipes mixtes sur toute l'étendue du territoire national pour s'assurer de l'effectivité des mesures présentes.
Kossi Wosu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Annoncée depuis quelques semaines au Bénin, la rencontre entre le président Patrice Talon, les secrétaires généraux des confédérations syndicales et les responsables des organisations patronales a eu lieu le 26 avril. Au cœur des échanges, la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti au SMIG. Que retenir de cette rencontre? Des précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La rencontre présidée par Patrice Talon a eu lieu en présence de plusieurs de ses ministres et les secrétaires généraux de 3 confédérations syndicales. D'entrée de jeu, le chef de l'État a planté le décor en soulignant que par ces temps qui courent, échanger sur la question de la revalorisation salariale paraît plus judicieux. Patrice Talon.
Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et le besoin de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Est-ce qu'on va augmenter ses salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'on va augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même, on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement?
Durant son intervention, Patrice Talon a également souligné que le salaire minimum interprofessionnel garanti passera de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. En plus de cela, tous les employés devront bénéficier d'une assurance santé. Après concertation, les syndicalistes ont accepté, mais avec quelques réserves.
Les employeurs acceptent de faire une augmentation de SMIG à 30%. ce qui nous amènerait à 52 000 francs, mais avec une exigence que nous partageons avec eux et sur le coût de l'assurance, parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter. C'est le coût de l'assurance que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire.
Et puis j'ai vu ça, j'ai vu vos éléments qui nous présentaient ça. Je voulais applaudir que nous n'attendons que ça, parce que la cherté de la vie, on sait que c'est mondial, mais chez nous ici, ça s'est accentué de telle enseigne qu'on voit que si on ne sortait pas en tant que représentant des travailleurs, que ça ira de mal en pis.
Après cette première journée, les syndicalistes ont évoqué une rencontre qui n'a pas nécessairement porté ses fruits, puisque sur la table du gouvernement se trouve une kyrielle de revendications qui ont été mises de côté. Pire encore, Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, dénonce quelques irrégularités dans le discours du gouvernement.
Nous avons toujours revendiqué ça. Mais contre toute attente, le gouvernement nous dit qu'il n'est pas nécessaire de maintenir le principe de hiérarchisation des salaires au Bénin, qu'il faut se contenter tout au plus d'augmenter le SMIG, encore que là, ça n'a pas été facile parce que le gouvernement lui-même n'est pas favorable à l'augmentation du SMIG.
L'augmentation du SMIC ne sera pas automatique. Le gouvernement a évoqué les incertitudes économiques actuelles dans le monde et s'est engagé pour le mois de novembre 2022, à condition que la situation actuelle ne s'aggrave pas. De Cotonou, Jeanette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
La récente élection présidentielle en France s'est résumée à un débat entre nationalisme et mondialisme, et le mondialisme a prévalu au vu de la victoire du chef de l'État sortant Emmanuel Macron, un proche allié du locataire de la Maison-Blanche. Que peuvent en tirer les États-Unis alors que le parti du président Joe Biden fait face à des élections de mi-mandat qui s'annoncent difficiles dans quelques mois? Anita Powell de la VOA s'est penchée sur la question. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Le chef de l'exécutif américain a eu quelques mots à dire au sujet de la réélection de son homologue français Emmanuel Macron.
Nous nous sentons bien à propos de l'élection française. Numéro 1. Numéro 2.
La victoire d'Emmanuel Macron vient solidifier l'agenda politique du président Joe Biden au moment où il est confronté à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un conflit décrit comme la plus grande menace pour la sécurité de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Allié de longue date, Paris soutient Washington face à Moscou, le président Macron se présentant comme le principal médiateur de la paix en Europe, ce qui lui a valu des félicitations de la part de Joe Biden sur Twitter. Même réaction du côté des autres dirigeants mondiaux qui sont d'avis que la victoire du président Macron équivaut à un vote en faveur d'un ordre mondial démocratique fondé sur des règles. Des analystes croient que les électeurs français l'ont également vu de cette façon. Pierre Morcos est chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.
Il est clair que la France joue depuis le début de l'invasion un rôle moteur dans la réponse européenne à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et la réélection du président Macron est une confirmation de la poursuite de cette réponse ferme envers la Russie. Ainsi, pour les autres dirigeants européens, cette réélection est clairement la bienvenue, car elle confirme que la France continuera à jouer un rôle moteur dans la réponse internationale.
In the international response.
Mais l'échiquier politique américain est différent à bien des égards, comme le démontrent les sondages. Une étude d'Ipsos a constaté que seulement 37% des Américains approuvaient la gestion de la Russie par le président Biden et 46% sa gestion de l'Ukraine. Et donc, pour des observateurs politiques, si le parti démocrate du président Biden veut obtenir un avantage électoral, il va devoir tirer les enseignements venus de Marine Le Pen, la rivale d'Emmanuel Macron. Malgré sa défaite, la candidate a fait mieux que lors des précédents scrutins. Célia Belin est chercheuse à la Brookings Institution.
I think one of the lessons that should be learned is that Je pense que l'une des leçons à tirer est que derrière ces partis nationalistes d'extrême droite se cache souvent un programme axé sur les problèmes quotidiens des gens. La demande de dignité, de travail, de capacité à faire sa propre vie dans l'endroit où ils vivent. Et cela, je pense, Marine Le Pen l'a très bien compris.
2 ans après avoir élu Joe Biden à la tête des États-Unis, les électeurs américains seront conviés aux urnes en novembre prochain pour les élections de mi-mandat.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Gisèle Morissin, Lionel Runamiragaïma et Michel Claire-Joseph. Eric Manilakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée.